Shavua Tov, les Koulam, Boker Tov, Shavua Tov. Et voilà! Et voilà, on repart sur une nouvelle série du dimanche matin. Voilà, nouvelle série du dimanche matin, Bezrat Hashem. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, eh bien, vous voyez qu'il y a, on a commencé une série qui s'appelle La Névoa dans tous ses états. On essaye de passer sur les névoas centrales du Tanakh, de la prophétie des Nevi'im. Pour comprendre ce que Dieu il attend de nous, parce que la névoa, c'est tout simplement ce que Dieu nous a dit. Et donc, en parallèle à cette série de cours, eh bien, nous aurons aujourd'hui une série de plusieurs cours, je ne sais pas, 5, 6, on verra. C'est encore une fois sur la prophétie, mais la différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer en revue du tout les différentes prophéties du Tanakh, mais on va s'intéresser cette fois eh bien, aux différentes prophéties du Tanakh qui se sont déjà réalisées. Voilà, le cours s'appelle « La prophétie se réalise ». Et donc voilà, on va essayer d'aborder à chaque cours, eh bien, tout simplement, les différentes névouotes qui se sont réalisées de nos jours, il y a quelques années, et en fait, prendre conscience à quel point nous vivons la réalisation de la promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous a faite. Mais pour cela, eh bien, nous sommes obligés de faire d'abord un premier cours, le premier de la série, qui sera pas des... enfin, ce ne sera pas un cours où on va expliquer quelles sont les prophéties qui vont se réaliser, qui se sont réalisées, mais il faut commencer d'abord par un cours d'introduction qui va être en fait une grande définition. Eh oui, définition. On parle de névoa, mais qu'est-ce que c'est que la névoa? Alors, le titre du cours, là, je l'ai donné en français parce que je parle en français là maintenant, mais il faut savoir que le titre, c'est-à-dire la traduction du mot névoa, déjà nous induit en erreur. Déjà nous induit en erreur. Parce que lorsqu'on parle de névoa en français, on parle de prophétie. De prophétie. Alors, prophétie, en français, le terme veut dire celui qui prédit l'avenir. Et pourquoi c'est une erreur? Eh bien, parce que certes, la névoa peut prédire l'avenir, mais ce n'est pas du tout ça son origine, ce n'est pas du tout ça la définition de la névoa. Il y a plein de névoas qui ne sont pas à vocation de prédire l'avenir et qui sont pourtant des névoas tout de même. Donc, qu'est-ce que c'est, Rabotai, que la névoa? Eh bien, il faut tout simplement revenir à l'origine. La névoa, nous dit le Rambam, dans Ilchot Yesodé à Torah, dans les bases de la Torah, au chapitre 7, nous dit le Rambam que c'est parmi les bases de l'existence, de la connaissance, tout ce que tu veux, de savoir que Dieu menabe est à Adam. C'est-à-dire que la névoa, c'est l'une des bases de l'existence. Bon, d'accord, Todarabam, monsieur Rambam, mais qu'est-ce que c'est que cette névoa dont tu me dis que c'est la base de l'existence? Qu'est-ce que c'est que cette prophétie dont tout le monde parle? Avant de donner la réponse, je voudrais simplement enfoncer une porte ouverte, disant que la Torah, c'est de la névoa. Ah, vous allez me dire, évidemment, c'est de la névoa. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est de la névoa? La Torah, la névoa, n'est pas une chokhma, n'est pas une sagesse. Elle n'est pas non plus, comment dire, la pensée seulement créatrice de Dieu. Ça va au-delà. Pourquoi ce n'est pas une sagesse? Eh bien parce que la sagesse est impersonnelle. Impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas tournée vers quelqu'un par une identité. Ce n'est pas un contact entre quelqu'un et quelqu'un, entre Michéou et Michéou, entre un sujet et un autre sujet. Mais c'est un objet. C'est une réalité du monde. La loi de gravitation, la loi de gravité, comment dire, la loi de gravité universelle de notre ami Isaac Newton ne dépend pas de Newton. C'est vrai que Newton nous l'a... Bah laquelle? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit des trucs en hébreu? Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Dis-moi ce que j'ai dit en hébreu, je te le traduis. Il n'y a pas de problème. Donc, notre ami Isaac Newton, lorsqu'il dévoile les lois de la gravité universelle, ça ne dépend pas de Newton. C'est sympa pour lui de sa part de nous avoir dévoilé ça, mais c'est pas... Les pommes ont commencé à tomber de l'arbre avant Newton et elles ont continué à tomber de l'arbre après Newton. Donc, eh bien, la sagesse est une vérité inscrite dans la réalité. Alors que la névoa, eh bien la névoa, c'est Dvar Hashem, Dibour, la parole de Dieu. Or, s'il y a parole, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle et il s'adresse à quelqu'un. Eh oui, c'est-à-dire que la névoa, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu, il a décidé de nous dire. Quand Dieu, il nous parle, ça s'appelle névoa, point. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, il veut nous dire ? Il fait ce qu'il veut. Des fois, il peut nous dire des choses qui vont se passer des milliers d'années plus tard. Des fois, il peut nous rappeler des choses qui se sont passées. Des fois, il peut nous faire des présentations géographiques. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec la deuxième partie du livre de Yoshua. Le livre de Yoshua, toute la première partie, très intéressante, nanana. Et puis après, on nous parle de la séparation des différentes tribus, des différentes parties de la terre d'Israël dans les différentes tribus. Et les gens disent, ah, mais c'est pas de la névoa, c'est un livre qui raconte l'histoire. Non, c'est de la névoa. Dieu a décidé de nous dire quelle tribu avait quelle partie de la terre d'Israël. C'est bien et bien de la prophétie. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est bel et bien de la prophétie? La prophétie, dans la mesure où elle est basée sur un dialogue entre le Créateur et la créature, eh bien, le dialogue dépend d'un choix moral. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, je fais le choix de m'adresser à lui. Et le choix, c'est l'une des bases de la qualité de jugement moral. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis à qui je parle et à qui je ne parle pas. Par opposition à la pomme qui va tomber de l'arbre, qui n'est pas du tout dans le monde de la morale. La nature est dénuée de tout sens moral. Elle n'est pas contre la morale, elle est simplement dénuée de tout sens moral. Exactement, la Torah, c'est Dvar Hashem. Et la Torah, c'est de la névoa. Quand je dis la névoa, j'englobe dedans tout le Tanakh. Torah, Nevim, Ketuvim. Tout ça, c'est de la névoa. Tout ça, c'est Dvar Hashem. Après, alors il va y avoir des différences entre la puissance du Dibour, la puissance de la parole, qui va être différente entre la parole à Moshe et la parole aux autres prophètes, Zénachon. Et il y aura également une différence entre ce que vient apporter comme élément, comme rôle dans ce monde, ce qui s'appelle Nevi'im et ce qui s'appelle Ketuvim, entre les prophètes et les hagiographes. T'as vu ? Comme quoi, Moshe, là, je te balance un mot, tu t'y attendais pas, les hagiographes. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans tous les cas, même si ça a des dimensions différentes, c'est de la névoa, à savoir Dvar Hashem. Et si on va aller plus loin dans ça, parce que si on dit que la prophétie, c'est bel et bien Dvar Hashem, la parole de Dieu, ça veut dire quoi, philosophiquement parlant ? Ben, ça veut dire que le divin, le créateur, eh bien, se dévoile à sa créature, en l'occurrence par la parole. Il y a donc un dialogue, un contact entre le créateur et la créature. Mais vous comprenez bien que c'est un monde, le monde dans lequel Dieu est présent. Le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, qui vient d'avoir l'honneur, et ça nous fait honneur, d'avoir une rue à son nom à Jérusalem, voilà, ça a été découvert fin de semaine dernière, Baruch Hashem. Et donc Manitou disait tout le temps la chose suivante. Si tu veux comprendre ce qu'est la névoa, eh bien, faut que tu saches qu'il n'y en a pas aujourd'hui. C'est-à-dire, n'essaye pas de t'imaginer qu'un super rabbin, c'est un petit prophète. Absolument pas. La névoa, ce n'est pas la chokhma des rabbanim. Il y a certains rabbanim qui ont ce qu'on va appeler Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qui ont des intuitions qui leur viennent d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas du tout de la prophétie. Et tout disait, tu veux savoir ce que c'est la prophétie, d'abord sache que ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc tu ne peux pas prendre quoi que ce soit qu'il y a aujourd'hui et tu dis, bah, ça c'est presque de la prophétie. Zélo. La prophétie, c'est autre chose. Et quand je vous dis que la prophétie, c'est autre chose, quand je vous dis que lorsque Dieu se dévoile, eh bien c'est quelque chose qui est palpable, eh bien l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que lorsque Dieu arrête de se dévoiler, Eh bien, c'est quelque chose qui est également palpable dans le monde entier. Regardez, je vous donne un exemple. Vous prenez tout le Tanakh. Et sans parler que du Tanakh, vous prenez également tous les écrits hors tanakhiques, hein, hors bibliques, c'est-à-dire les écrits qu'on a retrouvés en niveau archéologique, qui parlent des civilisations de l'époque biblique. Eh bien, tu ne retrouves à aucun endroit, il n'existe pas, il n'est jamais fait mention d'un concept qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui s'appelle l'athéisme. Personne à l'époque biblique n'est athée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que c'est complètement absurde dans un monde où le divin est présent, palpable, où tu le ressens, de dire non, il n'y a pas Dieu. Donc l'athéisme n'existe pas quand tu es face à une réalité où tu ressens le divin. Alors comment est-ce que tu traduis ce ressenti ? Ben, ça dépend. Quand tu es un élève de Moshe, ben, tu le traduis avec la Torah. Et quand tu n'es pas un élève de Moshe et que tu n'as pas la tradition prophétique forcément, eh bien tu le traduis par l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'un mot. Mais l'idolâtrie n'est qu'un, on va dire, un moyen de savoir que chacune de ces identités humaines ressentait très profondément le divin. Lorsque Dieu décide d'arrêter de parler, d'arrêter de... On dit que la prophétie reviendra à cause... On dit que la prophétie reviendra à cause du niveau moral d'Israël ou du dévoilement de Hachem. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, en fait, les trois, mon capitaine. Il y en a un que tu n'as pas dit. Le dévoilement de Dieu, ça s'appelle la prophétie. Et le dévoilement de Dieu, eh bien, viendra lorsque, non seulement Israël sera redevenu à un niveau moral adéquat, mais pas seulement Israël, et là, le monde entier. C'est-à-dire que la prophétie a aussi, comme je suis en train d'expliquer, une dimension globale. La preuve, c'est qu'il y a eu des prophètes également pour les nations. On peut parler, alors on connaît tous Bilam, Bilam ben Beor, on va lire sa paracha en Israël cette semaine. Mais au-delà de Bilam, on avait Yov, on avait Eliphaz, Bildad, Tsofar. On a eu plein de prophètes également pour les goïms. Ok, donc ce n'est pas qu'un niveau moral d'Israël, c'est aussi au niveau de l'humanité. Alors, Bataille, donc ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a dévoilement de Dieu, eh bien tout le monde le ressent. Et lorsque Dieu arrête de se dévoiler, bien tout le monde le ressent aussi. Et vous imaginez, c'est un monde qui change. Il n'y a pas que les Juifs à la synagogue qui le ressentent. Et c'est la raison pour laquelle la prophétie s'est arrêtée il y a de cela un peu plus de 2400 ans. Il y a à peu près 2400 ans, c'était la fin des prophètes. Malachi, le dernier prophète, se taisait. Malachi, on pourrait même aller jusqu'à Ezra si on admet que Ezra est un prophète. C'est pas évident. Il y a 2400 ans, ben, il n'y a plus de prophète. Regardons deux secondes ce qui se passe dans le monde entier à la même époque. C'est-à-dire sur une fenêtre de 50 ans. Mamache ! Juste après la destruction du Beth Amikdash, sur une fenêtre de 50 ans, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le monde entier qui, whoop, change. Comment ça change ? Ben oui. En Grèce, c'est le moment où les philosophes socratiques et post-socratiques vont commencer à parler. La philosophie de Socrate, de Thalès, commence. Thalès fait la jonction. C'est le premier des philosophes. C'est-à-dire que la philosophie arrive. Alors, on passe de la mythologie grecque à la philosophie. Et personne n'arrive à expliquer pourquoi. Platon dira lui-même qu'il ne comprend pas ses grands-parents. Que soit ils parlaient par paraboles très profondes, soit ils étaient débiles profonds de se prosterner devant des pierres. On passe donc du jour au lendemain, mamache, de la mythologie à la philosophie. Mais ce n'est pas qu'en Grèce. Vous allez un petit peu plus à l'est, en Iran, en Perse de l'époque, eh bien, vous avez un homme qui s'appelle Zarathoustra, qui va annuler l'idolâtrie perse et créer une religion basée sur le bien et le mal. Il y aura deux dieux, un bien et un mal. Complètement différent. La morale et non plus le ressenti. Vous allez aller encore un peu plus loin à l'est, en Inde, alors que jusqu'à présent, tout le monde était dans les idolâtries hindoues. Il y a un homme qui se lève, Gautama Siddhartha, qui va créer une nouvelle philosophie. On le connaît plus sous le nom de Bouddha. Et il va créer le bouddhisme. De la même façon, au même moment en Chine, Lao Tse et Confucius crée le taoïsme et le confucianisme qui annulent toutes les idolâtries chinoises de l'époque. C'est-à-dire qu'on est dans une fenêtre d'une cinquantaine d'années, dans le monde entier, alors qu'il n'y a pas de groupe WhatsApp encore, les hommes arrêtent de penser et pensent autrement. C'est-à-dire que les hommes arrêtent de réfléchir et penser le monde et vivre le monde avec un contact avec le divin. Chacun sont en train d'intellectualiser le monde, puisque le dévoilement de la chavaya, de l'expérience, ne se fait plus. Donc vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le peuple juif ? Eh bien, c'est l'époque de Ezra. C'est l'époque où les derniers prophètes se taisent et on passe à l'époque de la Chochma. Pashut. Pashut, pashut, pashut. La reine, entre parenthèses, c'est ce qu'on voit à l'époque de Thalès. Donc je disais tout à l'heure, Thalès, le premier philosophe. Eh bien, Thalès, pour savoir exactement quand est-ce qu'il a vécu, on a peu de choses sur lui. Bon, à part le fait que c'était pas qu'un triangle, hein. C'est comme son pote Pythagore, hein. C'était des gens avant d'être des triangles. Mais Thalès, on sait qu'il a fait des calculs, c'était aussi un très bon mathématicien, un très bon astronome, et il a fait des calculs pour trouver des éclipses. Et c'est lui qui a calculé la grande éclipse qui a été vue partout dans le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, par ordinateur, on peut retrouver exactement les dates. C'est facile de trouver quand est-ce qu'il y a eu des éclipses au total. Il a trouvé la grande éclipse de l'année -586. En voilà une date qui nous parle, puisque -586, c'est tout simplement la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash. Du premier, évidemment. Ce qu'on appelle Silou Kashrina, le moment où Dieu décide d'enlever sa présence. En d'autres termes, Thalès, la philosophie, arrive au moment du Khorban Amikdash. En d'autres termes, au moment où Dieu décide d'enlever sa présence, eh bien, on voit bien que le monde décide de changer de façon de voir les choses. D'ailleurs, c'est Bidyuk Ha'inyan. C'est exactement cela. Et c'est pas involontaire, mon expression. On change la façon de voir les choses. Jusqu'à présent, on entendait les choses et maintenant, on va les voir. La névoie, c'est Shema Israël. La prophétie, c'est entendre la parole de Dieu. La philosophie essaye de voir le monde. En grec, on dira, pour parler de compréhension du monde, on dira aspaklaria, un miroir, une façon de voir les choses. Ce problème, c'est que la vue n'est pas personnelle, elle n'est pas pointée, alors que l'écoute peut être beaucoup plus particulière. En d'autres termes, on est obligé de se réinventer complètement. C'est ce que dira Ken, c'est ce que dira le Midrash, que lorsque Alexander Mogdon et les différents Grecs rentraient dans les acropoles d'Athènes, dans leur temple à eux, et disaient « Locus, locus, locus ». Ça veut dire « qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau ». À ce moment-là, Ezra rentrait dans le Beth Amikdash et disait « kadosh, kadosh, kadosh ». Locus, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau, kadosh, kadosh, kadosh. C'est toute la dualité. C'est toute la dualité et c'est pour ça que lorsque dira le Seder Olam Rabba, que Seder Olam Rabba, il te dit quelque chose qui n'est pas vrai au niveau historique, on s'en fiche. Il vient t'apprendre quelque chose. Il te dit que les derniers prophètes, Haggai, Zecharia ou Malachi, sont tous les trois morts au même moment. Quand ? Quand Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem. Et il est rentré à Jérusalem pour que oh, ils sont morts. Et c'est sûr que c'est faux au niveau historique, mais on s'en fiche ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au moment où rentre le monde de la philosophie, eh bien le monde de la névoie n'a plus sa place. Et tout ça, c'est volonté, une volonté de la Kadosh Baruch Hu, bien sûr. En d'autres termes, ben, faut essayer de comprendre une chose. Pourquoi la névoie n'existe plus ? Pendant ces 2400 ans, et je fais un bémol, je vais dire jusqu'à aujourd'hui, ok, jusqu'à hier. Pourquoi elle n'existe plus jusqu'à hier ? D'accord ? Eh bien, je dirais la chose suivante. Nous dit le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi, deux choses qui semblent différentes, mais qui sont la même chose. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la névoie aujourd'hui ? Il parle de son époque. Il dit Pashut, I efchar chez Nevoa Bagalout. Dans l'exil, il n'y a pas de raison d'avoir la Nevoa. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas vrai, Yecheskel, il a fait les prophéties en Khoutzaharet, Jérémie également. Et je répondrai, oui, mais c'est déjà marqué dans la Gemara, dans le traité de Megillah. Il y a marqué, Ayo, Aya, Devar Hashem, et Yecheskel, Ben Bouzi. C'est-à-dire, Ayo, Mipne, Shekvar Aya. C'est-à-dire qu'il a reçu la prophétie quand il était à Babel, parce qu'il l'avait déjà reçue quand il était en Israël. C'est-à-dire que le robinet était déjà allumé, alors il a continué là-bas. Mais Stam Kacha en exil, il n'y a pas de prophétie. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda Halevi dans Sefer HaKuzari. Il dit le Rambam, quelque chose qui semble différent, mais en fait ne l'est pas du tout. Le Rambam, dans Moré Nevochim Chelek Bet, nous explique tout simplement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophétie. Parce que l'un des Tnaïm, une des conditions sine qua non pour qu'il y ait la prophétie, c'est la simcha. S'il n'y a pas de simcha, pas de joie, pas de prophétie. Or, nous dit le Rambam, or, il est impossible d'être véritablement joyeux lorsque nous sommes sous domination des nations avec leur roi débile. Je ne fais que reprendre les mots du Rambam. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, comme Rabbi Yehuda Halevi, en exil, quand tu es soumis au bon vouloir des goïms qui n'ont pas de grandes, ne sont pas très, très, très futés, d'après le Rambam, eh bien, tu ne peux pas être sa mère. Tu ne peux pas être joyeux. Tu ne peux pas être joyeux. Tu es triste. Pas de névoie. Pour pouvoir être prophète, il faut donc être joyeux. Mamash, c'est de ça qu'on parle. Pour être Navi, il faut être joyeux. Donc, depuis l'exil, ben, tu ne peux pas être Navi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres des Tnaïm. Il y en a d'autres des Tnaïm pour être prophète. Agave, entre parenthèses, le fait de joyeux, c'est un des principes de base de la prophétie, ça remet en cause un enseignement du Rav Soloveitchik. Et le Rav Soloveitchik disait que Avraham, lorsqu'il est face à la Akeda Titzrak, tous les versets de la Akeda, il les vit comme étant un déchirement personnel et un terrible, une dépression existentielle. Le Rav Kook, bon, qui vient avant le Rav Soloveitchik, etc., dit que c'est pas du tout ça. Dans Olat Re'iya, sur le commentaire qu'il a sur la Akeda Titzrak, sur les Psukim, il dit que puisque c'est Dieu qui lui parle, ça veut dire qu'il est Navi, ça veut dire qu'il est Sameach. Et donc, il faut comprendre tous les versets, mettant Simcha Atsuma. Ça, c'est un travail à faire. Mais, la Simcha, c'est un tenant obligatoire pour la prophétie. Mais ce n'est pas le seul. Nahon, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs dimensions qui sont fondamentales pour pouvoir être prophète. Et, en vérité, quand on regarde bien dans le Rambam, dans pas seulement Ichot Yesodeh Torah, mais également dans la Hagdama, le Perusha Mishnah, eh bien, le Rambam nous explique assez facilement et assez simplement quels sont les différents critères pour être prophète. Il y a plusieurs critères. Si tu réponds à tous les critères, boum, t'es prophète. Non, parce que aujourd'hui, c'est un peu facile, tout le monde se prétend prophète, nanana. Il y a des critères très simples dans la halakha juive qui détermine, t'es prophète ou tu l'es pas. Et pas n'importe quel rabbin avec une barbe ou une espèce de drap sur la tête pour se la jouer prophète de l'époque, devient prophète, c'est ça. Il y a en ce moment des vidéos qui tournent un petit peu partout sur Internet de gens, je les connais pas, hein, les gens. Je les connais pas. Donc je peux pas dire avec certitude. Mais tu vois leurs vidéos, tu as l'impression que tout est mis en place dans la façon de parler, dans la façon d'être filmé, dans la façon de s'habiller dans le film, pour que ce soit le nouveau prophète qui est en train d'arriver. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que les cinq tnaïm, les cinq conditions pour être prophète? Condition numéro un, la plus importante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la condition numéro 1, on ne commence même pas à discuter. Quoi, de mémoire 3? C'est quoi, de mémoire 3? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Bernard. Que veut dire de mémoire 3? Il dit, bah, il y a donc, j'ai dit, 5 conditions pour être prophète. Allons-y, voyons de quoi il s'agit. Non, 5 conditions. Juif, non, puisqu'on a dit, il y a des gens qui n'ont été pas juifs et qui étaient prophètes. C'est vrai ? Donc, quelles sont les 5 conditions ? Première condition, il faut lit'on les nevoa. Il faut prétendre être prophète. C'est la première condition. Prétendre être prophète. Si tu n'as pas prétendu être prophète, on ne commence même pas à discuter. Tu n'es pas prophète, les coudas. Tant que tu n'as pas dit « Dieu, il m'a parlé, je suis prophète », eh ben, ça ne commence même pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu parles aujourd'hui avec des chassidim de Chabad, ils te disent que le rabbi, c'était un prophète. Vadaï, vadaï, c'est sûr que c'était un prophète. Il n'y a même pas de débat. Regarde, la preuve, il a dit des choses qui vont se réaliser, qui se sont réalisées. C'est bel et bien la preuve. Non, c'est pas la preuve. C'est la preuve que c'était un tzaddik peut-être, que, enfin, c'est sûr que c'est un tzaddik, et c'est la preuve que, il a une intuition de Gdusha incroyable, et c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une siyata d'Ishmaïa. Tout ça, nachon. Mais c'est en aucun cas la preuve que c'est un prophète. D'ailleurs, si on disait que tout celui qui donne des infos sur l'avenir est prophète, eh bien, Laurent Cabrol serait donc un prophète des temps modernes. Tout présentateur de la météo serait un prophète des temps modernes. Non, il ne s'agit pas de ça. D'abord, il faut lit'on les nevoa. Le rabbi de Lubavitch n'a jamais prétendu qu'il était prophète. Donc, le fait qu'il ait dit des choses qui se sont réalisées, c'est extraordinaire. Ça nous montre que ce n'est pas n'importe qui le bonhomme, que c'était un grand parmi les géants, mais ça ne montre pas qu'il était prophète. Donc, la première condition, on a dit, c'est « lit'on le nevoa », prétendre être prophète. Deuxième condition, une fois que le mec il a prétendu « je suis prophète », ah ok, tu prétends, très bien, on va vérifier. Première condition de vérification, donc en fait la deuxième condition, il faut qu'il soit « raouille le nevoa ». Mazé raouille les névois, et bien là, il y a de plusieurs petites sous-catégories. Chacham, Gibor, Achir, Gvakoma. Il faut qu'il soit Chacham, donc tu lui fais un petit test de QI. Oui, alors tu dépasses les 100, c'est bien, c'est bon, ça passe. Yeah, je ne sais pas, on va mettre une base de qu'est-ce qui s'appelle Chacham ou pas Chacham. Gibor, Gibor, ça peut être évidemment Chacham, celui qui arrive à voir les choses avant qu'elles ne se passent, ou celui qui apprend de chacun, mais celui aussi, c'est celui qui sait résoudre une équation à deux inconnus. Gibor, c'est oui, celui qui est Samer Bechelko, qui est Komesh et Titro, mais c'est aussi quelqu'un, comme tu as dit, qui avait quelques muscles, Alex, Naron. Ve'achir, c'est vrai qu'il est aussi Samer Bechelko, mais c'est vrai aussi qu'il n'est pas en minus à la banque. S'il est en zone rouge à la banque, tu es sûr qu'il n'est pas prophète. Pas shoot. Donc, quelqu'un qui vient te voir, il te dit « je suis prophète », mais le mec, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire et il n'a pas le compte en banque bien comme il faut, l'olèr. Désolé pour nos amis musulmans. L'olèr. Donc ça, et il faut qu'il soit gvakoma aussi. Un mec qui fait 1m50, il n'est pas prophète. Nekuda. Pourquoi doit-il être riche ? Eh bien, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse penser que la recherche de spiritualité vient du fait que ce monde-ci lui a été pris. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement à plaindre, Baola Mazé, eh bien tu veux dire, bon, bah alors celui-là, c'est normal qu'il ne se vive que dans le monde supérieur. La prophétie, elle doit se réaliser dans ce monde-ci. Donc il faut que la personne qui porte la prophétie soit quelqu'un qui soit bien en place dans ce monde-ci, indépendant des autres exactement. OK ? Donc, on a dit... Ça, il faut qu'il soit raouille l'inévoi, c'est-à-dire qui mérite d'être prophète. Gibor, de se contrôler, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi qui est Kovesh et Titro, qui contrôle ses pulsions, mais il y a aussi le pshat. C'est-à-dire le pshat, le sens littéral, c'est aussi qu'il soit Gibor. C'est-à-dire, si le mec, c'est un laf-laf et que dès que tu lui dis un truc, il s'en va pleurer dans les jupes de sa mère, c'est pas un prophète. OK ? Donc, on a dit, l'iton l'inévoi, et raouille les névois. Troisième condition, il faut qu'il soit, qu'il vienne prophétiser, Bechem Hachem. et non au nom de la Avodah Zara, et que ce qu'il demande ne soit pas de faire l'idolâtrie. Un prophète a le droit de dire qu'il faut maintenant transgresser la Torah. Mais, bon, ça j'y reviendrai, il faut que ce soit monavé b'shem Hashem et pas pour faire l'idolâtrie. Pas shoot. C'est-à-dire que si tu viens et tu dis « Quand Amar à Baal, ainsi parle le dieu, je ne sais pas qui », alors tu sais que c'est pas vrai. Pas shoot. Et si tu viens b'shem Hashem, qui quand Amar Hashem, il a dit qu'il faut se prosterner devant la croix, eh ben, tu sais que c'est pas vrai. Et tu dois le mettre à mort, entre parenthèses. Donc, la troisième condition, c'est que Uba Bechem Hashem, Velo la Avodah Zara. Pas pour l'idolâtre. Quatrième condition, c'est que ce qu'il demande de faire ne soit que les Sha'a, Velo les Dorot. Ce soit une directive temporaire et pas éternelle. Car tous les prophètes ne sont venus que pour nous aider à comprendre la Torah de Moshe et pas pour se supplanter à la Torah de Moshe. Donc, s'il y a un prophète qui vient et qui dit, comme Eliyahu Hanavi, qui dit, écoutez, on va faire un concours de korbanot entre moi et les Nevi'im de Baal sur le mont Carmel, alors que c'est interdit de faire un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, mais c'est juste temporaire pour faire tshuva au peuple, alors c'est bessader. Mais si maintenant arrive quelqu'un, que ce soit Jésus, ou que ce soit les apôtres, ou que ce soit Paulo, Shaoul de Tars, après lui, si on vient et qu'on dit qu'on est là pour enlever une mitzvah ou les mitzvot de manière générale, pour l'éternité, Azev Adai Lo Nachon. Ok, quand Jésus dira le Shabbat n'est pas pour. C'est pas le Shabbat qui est pour le peuple juif, mais c'est le peuple juif qui est pour le Shabbat, et donc on n'a plus besoin de faire le Shabbat. Même si ce n'est pas marqué comme ça textuellement dans les évangiles, mais c'est comme ça que ça a été interprété dans les évangiles, eh bien, El Malahasot, à partir de ce moment-là, tu comprends tout de suite, au cas où tu n'avais pas compris encore, que Jésus, c'est l'onavi. L'onavi veut l'obatir. OK ? Donc, ça, c'est le quatrième événement. Et une fois qu'on a les quatre, tu as un mec qui dit Dieu, il m'a parlé. Tu as vérifié son compte en banque, tu as vérifié son potentiel Krav Maga, tu as vérifié qu'il faisait 1m80 et tu as vérifié. Qu'il était également Chacham Meod. Ensuite, il a dit Ko Amar Hashem, il a fait Meod, et après il a dit voilà, Dieu m'a dit qu'il faut que vous mangiez, que tout le monde mange demain à 10h, à midi pile, 100 grammes de cochon. Voilà. Mais juste demain, attention, à midi pile, pas à 1h. Et que, donc on a les 4 heures, on nous fait passer le dernier test. Le dernier test, c'est ta vie automophète. Alors, c'est quoi automophète ? Soit un miracle, donc c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature, et pas un bon coup de bol, chamboulement des lois de la nature, soit, là, on va rentrer le coup du « bon, ok, alors vas-y, maintenant, prédis-nous un truc qui va se passer d'ici à demain midi. » Et le Rama me dit qu'il faut, c'est pas que un, il faut revenir plusieurs fois. Genre, donne-nous 3-4 événements d'ici à demain midi qui vont se passer, qu'on ne pourrait pas savoir sur Internet. Et donc, à ce moment-là, eh bien, si il a dit, par exemple, il y aura un tremblement de terre demain à 10h58 au Chili. Et bien, toi, tu regardes, t'attends. 10h57, il ne se passe rien. 10h58, boum, breaking news, tremblement de terre de malade au Chili. Et bien, à ce moment-là, on va tous acheter chez nos amis russes du cochon, et à ce moment-là, à midi pile, on mange notre cochon en n'oubliant pas de faire 3 brachot. La première, eh bien évidemment, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa el divrei al-navi, c'est une mitzvah d'écouter les prophètes, ensuite chez Akol et ensuite chez Cheyanu, parce que c'est la première fois que tu mangeras du cochon. Mais pourquoi alors les premiers chrétiens d'origine juive n'ont pas vu un problème dans la théologie prônée par Shaoul alors qu'il était proche de la période de la névoie et connaissait? Alors d'abord, il n'était absolument pas proche de la période de la névoie et la connaissait, puisqu'ils étaient déjà, comme je l'ai dit, 400 ans après la fin de la névoie. Donc c'est pas très très proche. 400 ans, t'as le temps d'oublier pas mal de choses. Deuxièmement, justement, quand tu lis ce que dit lui-même le petit Shaoul, Eh bien, il écrit lui-même que les Juifs ne l'ont pas accepté. Et que donc, ils ont été obligés de partir à Rome pour vendre le projet à Rome. Alors, d'accord, tu as quelques gugus qui ont accepté, nous, c'est-à-dire. Mais la majorité des gens qui ont fait le christianisme, ce n'est pas les Juifs, c'est les chrétiens, c'est les Romains qui sont devenus les chrétiens. Rabotai, tout ceci met en place la prophétie. Les faux prophètes ont existé tout le temps, du temps de la prophétie et encore aujourd'hui. Alors, du temps de la prophétie, mais on comprend pourquoi, parce que du temps de la prophétie, c'était quelque chose qui était monnaie courante, la prophétie. Il y avait des prophéties chez les Juifs et chez les Goïms qui étaient des vrais prophètes, et il y en avait des mecs qui surfaient sur la vague et qui étaient des prophètes Shaker. Nachon, il fallait être capable, justement, de faire la différence entre l'un et l'autre. C'est pour ça que le Rambam nous donne la halakhot. Maintenant, pour ce que tu dis d'aujourd'hui, si tu parles de Shabtai Tzvi, de Yaakov Frank, tout ça, c'est des faux prophètes qui n'ont réussi que parce qu'ils ont surfé sur une vague qui est absolument pas émette, mais qui est la vague de désespoir et de la peur. À partir du moment où tu es face à un public qui a peur et qui est désespéré, alors c'est très facile de lui faire avaler tout et n'importe quoi. Et je t'invite à regarder toutes les vidéos sur Internet. Non, je ne t'invite pas à les regarder, mais tu le sais qu'il y a en Israël et en Chutz Laaretz, en français, en hébreu, en ce que tu veux, des mecs qui, quand ils voient un public qui est faible moralement, qui est faible mentalement, qui est faible également dans son monde, quoi, qui a du mal, qui a peur, qui est en désespoir, eh bien, tu as des mecs qui viennent et qui font des hocus pocus et ça marche très bien. On ne va pas donner de nom, mais c'est quand même fantastique qu'il y a des gens en Israël, par exemple, mais fantastique, hein, ça veut dire c'est extraordinaire. Tu as un mec, je te parle aujourd'hui, ça doit faire 4 ans maintenant, mais genre un an après, le mec, il était videur de boîte de nuit à Eilat, c'est-à-dire toute sa vie, il n'a jamais étudié la Torah. Et en un an et demi, il est devenu Baba. C'est-à-dire Mekoubal, Kadosh, Elion, machin, 3000 shekels, évidemment, pour le déplacement, hein, évidemment. Et il t'enlève les esprits, les mauvais esprits, les trucs, machin. Alors évidemment, il va pas réussir son truc, Beishivot. Nahon, il va voir des gens qui me collent à Kavod, leur connaissance toranique, elle est très très faible, et c'est des gens qui, en général, les 3000 shekels qu'ils vont payer, ils ont dû faire un emprunt pour les avoir. Bekitsour, tu vois, voilà, ça a toujours existé, malheureusement, c'est Zemayesh. Si pour être prophète, il faut dire que l'on est... Attends, je comprends pas. Si pour être prophète, il faut dire qu'on l'est, et qu'il y en a qui ont su, exemple le rabbi, prédire sans se dire prophète, on pourrait en déduire qu'il n'est pas nécessaire d'être prophète. Exactement! Merci Ilan. Nahon, il n'est pas nécessaire d'être prophète pour prédire. Ceci étant, pour prédire des choses et que ce soit vrai, il faut que tu aies quand même une sacrée bonne dose de Ruach HaKodesh. Donc, ce n'est pas donné à toi et à moi. Mais ça ne veut pas dire que tu es prophète. Nahon, la prophétie, c'est autre chose. Mais d'après tout ce que je viens de dire, eh bien, aujourd'hui, puisque le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi nous disent que l'exil et donc la tristesse engendrée par l'exil est le facteur essentiel qui nous empêche d'arriver à la prophétie, eh bien, ça veut dire que de nos jours, nous pouvons revenir et espérer avoir la prophétie. Non, c'est ch'touillotte. De dire que le corona, c'est parce que les gens se servent de smartphone, c'est absurde. C'est absurde, débile. Voilà, c'est absurde et débile. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui font des bêtises avec leur smartphone, ça c'est évident, mais c'est complètement idiot de venir dire et se prétendre prophète et de dire « oui, c'est à cause du corona ». C'est dans le même style que « oui, c'est à cause des gens qui ont parlé pendant la Hamida, pendant la répétition de la Hamida, qu'il y a eu la Shoah ». Ça, c'est la même stupidité. Malheureusement, il y a des gens qui surfent sur la vague. Nahon, il y a des gens qui surfent sur la vague. C'est malheureux. C'est malheureux et c'est d'autant plus malheureux qu'il y a des gens qui y croient. C'est pour ça que j'essaye de donner les références, les sources, pour que vous ayez la possibilité d'aller vérifier par vous-même si ce que je dis est vrai ou si ce que je dis est des bêtises, parce que la prophétie, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, le ikouv principal, c'est-à-dire la simra qui est due à l'exil, enfin, la tristesse qui est due à l'exil, eh bien, ce ikouv, cet empêchement principal, n'a plus lieu d'être, puisque Baruch HaShem, nous sommes revenus sur notre terre et nous sommes nous-mêmes patrons de notre destinée. Et donc, puisque la simra est revenue au peuple d'Israël, il ne reste plus qu'à nous préparer à pouvoir revenir à cette dimension de prophétie. Ça a été toute l'action du Rav Anazir, Rav David HaKohen, qui a écrit son livre Kol HaNevoa pour réapprendre à être prophète. On est en train de s'en rapprocher grandement et il est tout à fait probable, ce n'est pas une prophétie que je fais ici, mais il est tout à fait probable que nous sommes la génération qui va voir et revenir la prophétie, mais sauf qu'au moment où ça reviendra, t'inquiète pas, j'aurai pas besoin de tous les stratagèmes. C'est-à-dire que tous les 5 stratagèmes que j'ai évoqués, qui sont des stratagèmes de la halakha, pour vérifier si le prophète est un vrai prophète, de toute façon, si tu ressens pas la présence de Dieu, c'est que c'est pas la prophétie. Qu'à dire que lorsque Dieu aura décidé de se redévoiler dans le monde, eh bien de la même façon qu'à l'époque tout le monde le ressentait, eh bien nous aussi on arrivera à le ressentir. Les 5 étapes pour vérifier seront juste histoire de bel et bien donner un tampon de cachérisation à ce que l'on prophétise, à ce que l'on ressent. Je préfère ne pas te dire qui l'a dit. Ouais, Nachon, vaut mieux pas que tu me le dises, Nachon. Même si je crois savoir, mais c'est pas le problème. C'est-à-dire de toute façon, ce n'est pas la première fois hein, qu'on entend des choses comme ça. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ou à chaque fois qu'il y a un truc difficile, tu as plein de rabbanim qui viennent te mettre sur le dos toutes les raisons du monde. C'est bien. Si c'est, tant que tu sais que le rabbin il est dans son rôle de sermonner les gens, alors c'est bien, nous y allons. Si ça t'aide à ne plus faire n'importe quoi avec ton smartphone, eh ben, au moins, ça sera ça de gagner. Mais il ne faut pas dire de bêtises. Ça, c'est très chouvement. Voilà, ça c'était la première étape. On a essayé de dévoiler, de définir qu'est-ce que c'était la névoie. La névoie, c'est quelque chose qu'on est sur le point de retrouver, mais ça sera une névoie chadasha. Chadasha, qui n'a pas encore été dévoilée. Maintenant qu'on sait ce que c'est que la névoie, eh bien, dans les prochains cours, eh bien, on pourra tout simplement passer sur les différentes névoies qui ont été données à l'époque de la prophétie, mais que nous avons le mérite aujourd'hui de voir se réaliser sous nos yeux. Et ça nous permettra encore plus de voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et d'être prêt à recevoir eh bien, le chidouche de la prophétie. Bimera Beyamenu. Pourquoi nous, plus qu'une autre génération, allons voir le retour de la névoie? Eh bien, très bonne question, Aaron. Ça sera la réponse dans les différents cours qu'on va donner après. C'est-à-dire, en spoiler, puisque nous sommes la génération que Dieu a choisie pour réaliser ses prophéties, et donc ça, ce sera le but de nos prochains cours, de voir justement où sont les prophéties qui se sont réalisées? Eh bien, puisque plus qu'aucune autre, puisque nous sommes la première génération véritable qui voit la réalisation des prophéties, eh bien, j'ai envie de penser, peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de penser que si Dieu réalise les prophéties dans notre génération, je te parle d'une génération sur une centaine d'années, évidemment, pas sur 10 ans, eh bien, je pense que nous sommes la génération qui, Bezrat Hashem, va recevoir de nouveau la prophétie, Bimera Beyamenu. Amen. À bientôt.